Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. C'est un voyage fascinant que je vous propose aujourd'hui, qui démarre à l'aube de l'humanité pour ne jamais cesser, puisque ce voyage à travers les âges et les continents est une quête. Une quête qui, dans la dynamique des sociétés humaines, est un moteur. Cette quête est celle de la beauté physique. Jamais avant qu'Elisabeth Azoulay, anthropologue, ne songe à retracer l'histoire de la beauté humaine, eh bien jamais on n'avait fait paraître ce genre d'ouvrage. On analysait la beauté dans l'art, mais pas la beauté physique. Alors, Elisabeth Azoulay a contacté 300 chercheurs dans 35 pays différents et au bout de 4 ans a pris forme un coffret de 5 volumes qui retrace de façon prodigieuse et presque exhaustive la folle histoire de la beauté humaine. L'ouvrage a pour titre « 100 000 ans de beauté ». Il est paru chez Gallimard et je reçois Elisabeth Azoulay.
Europe 1.
Bonjour, bienvenue.
Merci pour cette présentation, Isabelle. Merci de me recevoir.
Alors, chère Elisabeth Azoulay, j'ai plus de 1000 questions à vous poser. Toutes les sociétés l'ont prouvé depuis la préhistoire, l'être humain ne s'est jamais contenté de son corps biologique. Il s'est toujours paré, peint, scarifié, couvert d'ornements, il a toujours cherché à modifier son apparence. Et cela bien avant Homo sapiens et Néandertal. Alors pourquoi l'être humain ne s'est-il en fait jamais contenté de son corps biologique ?
Parce que c'est un être social. En fait, il n'y a pas tellement de Robinson Crusoe dans l'humanité. Il y a toujours des êtres humains qui vivent avec des autres êtres humains. Et que pour fabriquer ce subtil tissage du lien social, eh bien, le fait d'être d'accord sur ce que doit être l'apparence physique, c'est un élément clé. Ça fait société, ça fait culture.
Donc la beauté, c'est la première pensée symbolique conçue par l'homme, on pourrait dire ça ?
Oui, peut-être. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le corps humain, c'est le premier médium culturel de l'homme. C'est-à-dire que sur son corps, il a inscrit ses premières idées, ses premières projections sur ce qu'il devait être et ce que devait être la société. On doit inventer des tas de choses, la séduction, on doit inventer d'une certaine forme de plaisir. Oui, les êtres humains sont les seuls à devoir faire ça, c'est-à-dire que tous les scénarios de séduction ne sont pas inscrits dans les gènes.
Ouais.
Ils doivent être élaborés grâce à l'intelligence, grâce à la culture, l'imagination, les postures individuelles. Et c'est ce travail-là qui est tellement subtil, tellement complexe, qui retrace un peu tous ces gestes de beauté.
Mais la beauté, alors, je comprends, elle est faite en fait de plein de paramètres sociaux, mais il n'existe pas une beauté universelle.
Non, c'est impossible. En fait, la beauté, c'est un peu comme un langage pour les êtres humains. C'est-à-dire que tout le monde sait parler, c'est-à-dire que ce qu'on a dans l'humanité en commun, c'est le fait de s'exprimer par la parole, mais on parle des langues différentes. Ben, la beauté, c'est pareil. Ce qui nous est commun, hein, puisque c'est un sujet anthropologique,
ouais,
c'est le fait qu'on parle tous. Et la beauté, c'est une expression,
c'est une
qu'on
expression
a en commun. Bon, mais ce qu'on dit, c'est tout à fait différent.
Voilà, c'est ça. Alors, dans l'histoire de l'humanité, Elisabeth Azoulay, la beauté s'est souvent inscrite sur le corps par la souffrance. Peau tailladée, scarifiée, cloison nasale perforée, mutilation ou chair déformée, comme par exemple les bouches à plateau, cou étiré des femmes girafes, transformation de la forme du crâne en pain de maïs chez les Mayas, les Olmecs, et puis plus près de chez nous donc, et je l'ai découvert dans vos ouvrages, cils épilés, je dis bien les cils, pas les sourcils, les cils épilés à la Renaissance. Et également les pieds bandés, donc atrophiés des Chinoises, les corsets sanglés des robes à crinolines, aujourd'hui des piercings en tout genre. Donc, il y a une dimension sacrificielle dans la recherche de la beauté. Pourquoi ?
Ce qui prime, c'est le sens. Et à la limite, les êtres humains peuvent passer au-dessus de bien des souffrances et bien des absurdités. Ce qui prime, c'est ce qu'on cherche à transmettre au travers du geste de beauté du rituel en question. C'est-à-dire que quand il faut avoir des tout petits pieds, même si ces tout petits pieds vous empêchent de marcher,
oui,
eh bien, au fond, on veut ces tout petits pieds lorsqu'on est une aristocrate, puis plus tard une bourgeoise en Chine. Ça signifie, dans ce cas-là, qu'on fait partie de l'élite sociale.
Oui, de la caste.
Et qu'on n'a pas travaillé dans les champs, à courir, à employer son corps. Et donc, au fond, et alors que ça fait souffrir, ce signe est voulu par les mères pour leurs enfants, parce qu'elles vont privilégier le fait de montrer l'appartenance à une classe sociale. Il y a beaucoup de gestes comme ça. La deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que dans la beauté, au fond, dans la modernité, il y a beaucoup de gestes qu'on s'inflige à soi-même.
Ouais.
Alors que dans l'histoire, il y a beaucoup de gestes qui sont décidés par les autres pour vous. Ouais. Hein, c'est évident que quand on déforme un squelette, c'est rarement la personne elle-même qui décide. C'est fait dans la petite enfance. Voilà. Il y a des tas de gestes qui sont faits par l'entourage.
Comme
par
d'ailleurs
l'entourage.
J'ai appris à la Renaissance dans l'Italie du Nord, c'est absolument incroyable, avec les mères qui bandent d'une manière extrêmement serrée les crânes de leur bébé pour que le crâne soit oblongue, comme un pain de sucre.
Oui. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la beauté, c'est à la fois une action de surface sur la peau. On pose des couleurs, on peut rentrer sous la peau avec les tatouages, mais on peut aller jusqu'à déformer le squelette. Hein. Alors, il y a des parties du corps, les cheveux, les ongles, tout ça, ça ne fait pas très mal quand on les coupe, on les coiffe et tout ça. Mais ce qui est frappant, c'est que dans son entreprise de transformer le corps humain, finalement, l'humanité ne recule devant aucun sacrifice. Quoi.
Alors, parlons de la parure, par exemple. Si on remonte à l'aube de l'humanité, donc dans les sociétés sans écriture, la parure, c'était comme un langage muet, c'est ça ?
Oui, bien sûr. Je pense que pouvoir exprimer, dans beaucoup de sociétés d'ailleurs, même pouvoir exprimer qu'on est marié. Et il y a des tas de sociétés où il y a des tas de gestes de beauté qu'on peut faire que lorsque on a été marié, par exemple, pour une femme. Alors, c'est vrai dans les sociétés sans écriture, mais c'était vrai aussi au Japon, au 15e, 16e, 17e siècle. Hein ? Donc, il y a des gestes qui, quelque part, définissent des âges, des moments de la vie. Et puis, il y a des gestes aussi qui définissent très précisément le milieu social auquel on appartient.
Ouais.
Pendant très longtemps, il y avait le fait de porter une perruque, le fait de pouvoir se maquiller, etc., de telle ou telle manière, de porter telle couleur. Ouais. C'était parce qu'on appartenait à tel milieu social. Et c'était réprimé. Quand on n'appartenait pas au milieu qui avait le droit de se présenter de telle manière, c'était considéré comme une sorte d'imposture.
Alors, ça veut dire que la beauté n'a jamais été un exercice libre, en fait. Ça n'est pas une projection personnelle. Je reste sur la préhistoire, mais l'Homo erectus, il s'intéressait aux colorants comme l'ocre pour se parer, donc, et puis aux coquillages pour se faire des colliers et des bracelets. Mais tout ça, c'était toujours sous contrôle de la tribu, du clan, du groupe qui choisissait les couleurs ou qui choisissait les formes, c'est ça ?
Oui, oui, il y a une interaction. Par exemple, on sait que Sapiens s'est beaucoup intéressé à l'ocre. C'était pratiquement l'or de la préhistoire. Et que Néandertal, lui, c'était des couleurs noires.
Allez, on s'interrompt un bref instant et on retrouve tout de suite Elisabeth Azoulay, anthropologue, avec laquelle on chemine cet après-midi. A tout de suite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Elisabeth Azoulay, en plongeant avec curiosité, comme pour un grand voyage, dans les récits passionnants des cinq ouvrages qui constituent, j'ai envie de dire, l'encyclopédie presque exhaustive de 100 000 ans de beauté paru chez Gallimard, eh bien, j'ai appris que depuis la nuit des temps, la beauté retravaille bien sûr la nature, mais toujours avec une préférence pour les traits juvéniles. Alors, est-ce qu'on peut dire que finalement, dans aucune société, la vieillesse n'a jamais été une référence de beauté ?
Mais je ne suis pas sûre. Je pense que souvent d'ailleurs, pour le mot beauté, dans toutes les langues, il peut y avoir plusieurs mots. Je m'en suis aperçue en faisant ce travail parce que c'est assez international. C'est que quand on parle à des Indiens de la beauté ou à des Chinois de la beauté, on s'aperçoit que dans leur vocabulaire, entre des notions qui ressemblent plus au bien-être, plus à la grâce, plus à la perfection anatomique, enfin, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs mots.
Ouais.
Et ce que je crois, c'est que quand on parle de la beauté d'un très jeune enfant, c'est vrai qu'un jeune enfant, c'est souvent très beau, mais je crois quand même que dans toute cette histoire de la beauté, on s'est employé à faire en sorte qu'une population bien particulière, c'est la femme jeune et féconde, soit mise en valeur. Parce que derrière la beauté,
pour la reproduction de l'espèce,
ne l'oublions pas, il y a toujours deux idées, celle de la séduction et celle de la reproduction. Donc je pense qu'il y a un trait commun à toutes les sociétés, c'est qu'il y a un coup de lumière qui est braquée sur cette population de la jeune femme féconde. Elle est censée être l'âge le plus désirable et le genre le plus désirable. Mmh. En réalité, on est quand même équipé pour trouver aussi un enfant beau, aussi un homme beau. Mais il y a une sorte de confiscation du vocabulaire, comme si on voulait braquer les projecteurs.
Alors, l'harmonie des traits, elle appelle à une réflexion sur la symétrie et sur les proportions. Et déjà dans l'Antiquité, les Égyptiens, sur le papyrus de Rhind, avaient fait une grille qui codifiait de façon mathématique le corps parfait, l'usage parfait. Et puis dans la Rome antique aussi, un certain Vitruve, qui je crois était architecte, avait fait ce genre de calcul, d'après lesquels d'ailleurs Léonard de Vinci a dessiné cet homme qu'on a tous vu, bras et jambes écartés, et qui s'inscrit dans un cercle. Mais alors, qui a mis au point Le nombre d'or, voilà, sorte de formule mathématique universelle de la beauté dont on dit que ce nombre d'or, il a servi à construire aussi bien les pyramides que à peindre, par exemple, la Vénus, la naissance de Vénus de Botticelli.
Écoutez, je ne sais pas si c'est le même nombre d'or qu'on a utilisé à chaque fois. En tout cas, les grands inventeurs de cette idée d'une beauté très arithmétique,
oui,
où on est capable de quantifier des proportions, c'est quand même les Grecs. Hein. C'est vrai qu'il y avait un canon de beauté égyptien, mais l'Égyptien, par exemple, dans l'art égyptien, ne se piquait pas de faire des portraits réalistes. On voyait ces personnages de profil, ils étaient minces, même lorsqu'ils ne l'étaient pas, etc. Il y avait quelque chose dans la représentation en Égypte antique qui était de l'ordre du canon qui s'appliquait par-delà le réalisme,
oui,
des portraits.
Totalement idéalisé.
Il y a très très peu de portraits réalistes. Mais ceux qui sont allés le plus loin, parce que les philosophes s'y sont mis,
oui,
et pas seulement les artistes, ce sont les Grecs,
oui,
qui ont absolument voulu établir qu'il y avait un lien entre la beauté physique et les qualités de l'âme. Oui. Il fallait être là. Quand on était beau, on était bon, et quand on était bon, on était beau. Et ils ont poussé très très loin cette réflexion.
Autour des philosophes et des poètes, d'ailleurs.
Absolument.
Et c'est devenu presque... La beauté, soudain, était infusée par une espèce de désir homosexuel. Parce que
oui, ils se sont particulièrement intéressés à l'homme,
voilà,
à la beauté masculine.
Voilà.
Et parce que, pour eux, la beauté féminine, ils l'ont assez vite taxée d'artificiel, c'était le maquillage et tout ça. Alors que la beauté virile, c'était le sport, c'était l'exploit physique dans la nature.
Les guerriers.
La nudité, les guerriers. Et ils sont passés maîtres dans l'art de la représentation anatomique.
Alors, je reste sur l'Antiquité, et cette fois-ci, on quitte la Grèce pour l'Égypte. J'ai appris quelque chose de fou. En fait, dans l'Égypte des pharaons, on ne faisait pas que se maquiller, se parer, se coiffer, s'épiler et se parfumer. On maîtrisait la chimie de synthèse, car pour embellir la peau, dans l'Égypte ancienne, donc, on savait préparer des onguents avec des molécules qu'on ne retrouve pas dans la nature. Et les chimistes de L'Oréal, la fondation qui a permis justement on va dire façonner cet ouvrage prodigieux, 100 000 ans de beauté, qui est paru chez Gallimard, eh bien, ces chimistes ont analysé en laboratoire des onguents vieux de 4000 ans et ont découvert qu'ils renfermaient des molécules de synthèse, donc qui n'existent pas dans la nature. C'est hallucinant, ça.
Oui, c'est vrai. Vous savez, les Égyptiens sont des grands inventeurs de gestes de beauté. On s'aperçoit qu'effectivement, ils maîtrisaient des tas de formules, de formulations, de produits de beauté absolument étonnantes. Et quand on a retrouvé des petits pots à onguents dans la tombe de Ramsès, on a demandé à des chimistes du laboratoire de L'Oréal de regarder ce qu'ils pouvaient dire sur ces dépôts.
Oui.
Et ils ont été très, très surpris de voir qu'effectivement, ces dépôts de crème étaient finalement des formulations assez sophistiquées sur le plan chimique et pas si loin de nos propres crèmes de beauté.
Pas si loin. Mais non. En même temps, ça veut dire que chez eux, au-delà de la momification, on se maquillait pour l'éternité, puisque les cosmétiques étaient utilisés après la mort. Donc la beauté ne devait pas se dégrader. Il fallait être beau pour l'au-delà.
Oui, souvent. C'est pour ça que ce livre s'appelle 100 000 ans de beauté. 100 000 ans, c'est les premières sépultures humaines.
Ouais.
Donc les premières façons de voir ce qui se passait dans le corps qui était préparé pour la mort. Et donc, vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus, Isabelle, c'est que ce qu'on fait pour les morts, en général, on le fait pour les vivants. Et c'est pour ça que quand on n'a pas d'autres moyens d'apprendre, donc quand on veut remonter, parce que l'art figuratif, c'est moins 25 000 ans,
oui,
donc quand on veut avoir des éléments d'avance-là, qu'est-ce qu'on a? On a des objets qui ont servi à la beauté, qu'on retrouve, et puis on a la mise en scène des corps dans les tombes. Et on apprend beaucoup avec ça. On apprend, par exemple, toujours avec le laboratoire de L'Oréal, que Ramsès avait des cheveux teints.
Alors, je remonte la chronologie. Avec l'apparition de la chrétienté, le corps ne sera plus dénudé. Donc, on peut parler d'un corps chrétien. Avec le corps chrétien, la beauté doit venir de l'intérieur, c'est ça? Soudain, la beauté, c'est une émanation. On cache son corps. La pudeur apparaît.
C'est vrai que toutes les religions, et en particulier les religions monothéistes, ont insisté sur la manière dont il fallait montrer, ne pas montrer son corps,
ouais,
ce qu'on pouvait faire avec lui, ne pas faire, le laver, manger. Enfin, c'est ça qui est aussi intéressant dans l'Antiquité, dans tous ces gestes de beauté inventés dans l'Antiquité, c'est que quelque part, ils ont été figés dans les corpus religieux.
Ouais.
Et qu'ils s'appliquent à notre période, parce que la religion, qui vient de cette période-là, la plupart des religions qui viennent de cette période-là, qui ont été écrites à ce moment-là, elles ont figé les idées de l'époque. Elles ont figé des idées de l'époque et elles nous les appliquent au par-delà le temps, à toutes les époques.
Bien sûr. Mais alors, par exemple, se maquiller, lorsque apparaît l'ère chrétienne, se maquiller, ça devient un péché d'orgueil qui consiste en fait à redessiner la créature de Dieu mieux que Dieu ne l'a faite. C'est ça.
Oui,
donc
c'est
interdit, alors qu'avant, tout le monde se maquillait. Dans l'Égypte ancienne, on abusait même des fards.
Oui, et puis là, au contraire, c'était plutôt vécu très positivement. Il n'y a pas du tout ce tabou dans l'Égypte ancienne. C'est vrai que l'idée de ne pas faire offense à Dieu en modifiant sa création, c'est une idée qui a été tout à fait véhiculée. Ceci dit, l'idée n'a pas été très suivie. Puisque ça n'a pas empêché, finalement, tous les grands aristocrates des cours européennes de se maquiller abondamment.
Bien sûr, et avec ce terrifiant blanc de césure fabriqué à base de plomb. Bon, on fait une courte pause et on retrouve tout de suite l'anthropologue Elisabeth Azoulay.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Elisabeth Azoulay, avant de reprendre notre voyage au travers de 100 000 ans de beauté, cette Bible, cette encyclopédie unique en son genre, rédigée par 300 auteurs de 35 nations différentes, des archéologues, des ethnologues, des historiens, des chercheurs, des plasticiens, des anthropologues comme vous. Bref, un objet de savoir magnifique, publié chez Gallimard. Eh bien, j'aimerais en fait découvrir votre chemin de vie à vous. Comment et pourquoi devient-on anthropologue et en quoi consiste la vie professionnelle et les réflexions d'une anthropologue?
Un anthropologue, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ce qui rassemble l'humanité et en même temps qui s'emploie à comprendre la variété d'expressions. Il y a très peu de sujets qui sont anthropologiques. En fait, il y a très peu de sujets qui sont exactement les mêmes pour tous les êtres humains, quel que soit le moment dans l'histoire. Et l'endroit où on se trouve.
Et ces sujets qui sont communs sont...
Par exemple, c'est ce qu'on fait de son corps. Ouais. C'est le fait d'avoir besoin d'expliquer le monde, soit scientifiquement, soit au travers d'une religion. C'est l'alimentation.
Ouais.
Et c'est la réflexion sur l'alimentation, le fait qu'elle a une charge symbolique, etc. Donc en fait, on s'aperçoit qu'il y a comme ça 4-5 sujets qui sont des sujets qui ont concerné tous les êtres humains. Et moi, c'est ça qui m'a passionnée.
Alors, vous êtes arrivée à l'âge de 2 ans et demi en France, Elisabeth Azoulay, mais je crois savoir que vous avez grandi entre deux mondes, donc deux cultures, le Maroc et la France. Est-ce que ça a compté dans le choix de votre métier?
Oui, je pense qu'il y a plus grand monde. On est souvent de deux endroits à la fois, de trois endroits à la fois. C'est mon cas. Et j'ai trouvé que j'appartenais à des mondes à la fois très différents, avec des couleurs différentes, des cuisines différentes... des langues différentes, des intérêts différents, des morales différentes. Et qu'en même temps, je me sentais bien partout.
Alors parlons de cet ouvrage, cette encyclopédie de l'histoire de la beauté humaine, baptisée 100 000 ans de beauté, qui paraît chez Gallimard. Vous en avez eu l'idée, le désir, à la suite de quoi? À la suite d'un manque, d'une frustration, une frustration de l'universitaire que vous êtes? Puisque jamais, on avait toujours évoqué la beauté au travers de l'art, au travers de la culture, mais pas la beauté physique.
Oui, à vrai dire, il y a deux déclencheurs. Le premier déclencheur, c'est le fait que le groupe L'Oréal, avec qui j'étais en discussion, était très soucieux d'expliquer que la beauté n'était pas seulement un sujet féminin, que ce n'était pas un sujet superficiel, et qui m'ont demandé ce que j'en pensais. Et je me suis dit, oui, au fond, ils ont raison de dire ça, mais une fois qu'on a dit ça, que ça n'était pas, sur quoi on s'appuie pour dire ce que c'est? Et je me suis aperçue qu'il n'y avait pas beaucoup d'éléments.
Pas beaucoup d'éléments.
Non.
Donc, je voudrais savoir comment on s'y prend pour réaliser une telle entreprise, réunir 300 chercheurs dans 35 pays différents. D'ailleurs, des chercheurs parmi les plus connus, on trouve Yves Coppens, on trouve Michel Serres, Pascal Pic, Jean-Claude Carrière, parce qu'il y a à la fois une iconographie incroyable et puis des textes philosophiques, historiques. Vous y êtes pris comment?
J'ai commencé par chercher. J'ai vu qu'il y avait quand même quelques personnes qui avaient travaillé là-dessus, qui étaient des historiens. Il faut citer Georges Vigarello, qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui a fait des choses formidables. Mais ils ont travaillé, évidemment, en Occident, et puis depuis la Renaissance. Mais personne n'avait essayé de faire le pont avec d'autres périodes, y compris très lointaines, comme la préhistoire.
Mais comment est-ce possible?
Et bien donc, il faut inventer des candidatures. En fait, les expertises n'existaient pas.
Vous avez beaucoup voyagé pour
mais
ça.
Non, mais il faut poser des questions aux gens. En fait, quand on demande à un préhistorien, c'était le cas avec Yves Coppens, de qu'est-ce qu'on peut dire sur la beauté à la préhistoire, il a envie de répondre rien. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui se racontait, on ne sait pas tout ça. Alors mais quand on change la question...
Vous avez contourné, voilà.
Faut jamais perdre son fil. Et quand on lui dit, mais finalement, est-ce qu'on transformait son corps à la préhistoire volontairement ?
Oui.
Là, tout à coup, on s'aperçoit qu'il peut dire oui et qu'il peut avoir des éléments, des preuves et sur lesquels on peut travailler. En fait, je pense que j'ai beaucoup progressé en posant des bonnes questions.
Alors, Elisabeth Azoulay, dans ce coffret donc, de 100 000 ans de beauté, il y a 5 livres pour 5 périodes. La préhistoire, l'antiquité, l'âge classique, la modernité et une projection vers le futur. Mais quelle période fascine le plus la femme que vous êtes ?
Mais j'ai envie de dire toutes. C'est très très difficile. Parce que moi, en fait, je me sens très très proche de tas de personnalités antiques.
Comme par exemple
bah oui. Mais la culture égyptienne me fascine. Parce que c'est un monde assez joyeux, hein, finalement, l'Égypte ancienne. Où les hommes... Bon, je mets l'esclavage de côté. Hein, mais où, par exemple, c'est pas une société misogyne. C'est une société où les femmes avaient un rôle assez important. Voilà. Et puis après on lit un philosophe... on lit un Marc Aurèle ou on lit un philosophe grec et on ressent exactement la même chose. Ouais. Moi, je trouve que grâce à nos moyens de communication, par-delà le temps, par-delà l'espace, on s'aperçoit qu'on peut être extrêmement proche de tas de gens tellement... dont on est séparé par des millénaires.
Voilà, et on est riche de cet empilement de toutes les cultures.
On bénéficie en fait d'une accumulation de savoir, d'une accumulation de sensibilité. Et quand on fait son petit chemin dans tout ça, on s'aperçoit qu'on est proche de tout le monde en fait.
On retrouve tout de suite Elisabeth Azoulay.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, avec Isabelle Morizet.
Voilà un ouvrage prodigieux qui retrace l'histoire de la beauté humaine. Il a pour titre « 100 000 ans de beauté ». Il est paru chez Gallimard et je reçois l'anthropologue qui en a dirigé les travaux et les recherches, Elisabeth Azoulay. Alors, chère Elisabeth Azoulay, avant d'évoquer l'histoire de la beauté au cours de ce que vous nommez l'âge classique, qui s'étire, lui, à peu près du 8e siècle à Bagdad jusqu'à la révolution de 1789 en France, eh bien, avant tout cela, je voudrais savoir quand, d'un continent à l'autre, a eu lieu le premier partage de valeurs esthétiques en termes de beauté humaine. En fait, quand y a-t-il eu, si ça a existé, quand y a-t-il eu la première unité esthétique pour définir avec les mêmes critères la beauté féminine ?
Ça serait peut-être au XXe siècle, après la donc on sort de notre période,
hein. Ouais.
Mais après la décolonisation, avec l'élargissement du regard, grâce à des gens comme Picasso, comme tous ces gens qui ont redécouvert le monde africain, avec son esthétique, son art, etc., on a appris qu'on pouvait trouver beau, en même temps, des personnes extrêmement différentes les unes des autres, des objets très différents les uns des autres. Cet apprentissage-là, de comprendre la diversité dans la beauté et de trouver beau, je sais pas quoi, la caricature d'un Suédois blond, etc. Et en même temps, je sais pas quoi, une personne asiatique ou une personne africaine. Et d'être capable de les trouver beaux, mais ça, presque à égalité
oui,
les uns des autres,
c'est
très tard
siècle.
Dans l'histoire. Oui, c'est un apprentissage. Ça se passe
dans
le cerveau.
Et quand on dit 20e siècle, c'est peut-être après la dernière guerre.
Oui. C'est après 1950.
Alors, revenons à l'âge classique. Donc, dans cette même période de l'âge classique, les contemporains de Rubens, j'imagine, n'auraient pas du tout aimé les silhouettes quasi anorexiques de l'époque médiévale, ni les pieds bandés tels des moignons atrophiés des belles de la Chine impériale, ni les crânes allongés des princesses volontairement déformées dès la naissance dans l'Italie du Nord au XVe siècle. En fait, à cette époque-là, c'est foisonnant, mais chaque pays, chaque société, chaque culture a ses codes.
Invente ses codes, absolument. Et par exemple, Rubens, c'est l'arrivée du sucre.
C'est comme ça que les belles opulentes apparaissent sur les tableaux.
Jusqu'à la Compagnie des Indes, on se contente du sucre, des fruits ou du miel. Mais tout à coup, il y a une arrivée de sucre massif et bon marché. Et puis être en pleine zone de commerce international en Flandre, etc.
Et, oui.
Et avoir accès à toutes ces richesses, montrer qu'on fait partie de cette bourgeoisie, c'est l'opulence des corps qui marque la beauté de l'élite sociale. Il faut comprendre un truc, c'est que dans le vocabulaire de la beauté, dans la petite grammaire de la beauté, être beau, c'est souvent faire partie de l'élite.
Ouais.
Et l'élite se débrouille toujours pour faire passer ses propres critères, ses propres privilèges,
ouais,
comme des canons de beauté.
Alors, voyageons, Elisabeth Azoulay. Partons dans les pays musulmans. Au Moyen-Âge, dans les pays musulmans, on a développé une pharmacopée et un art de l'hygiène très très efficace pour prendre soin du corps des femmes. Les savons, le henné, l'argile, les hammams et, j'ai appris ça dans votre ouvrage, le dentifrice.
Ah oui. Oui, c'est vrai. En fait, le monde islamique il y a eu des très très grands chimistes, hein, les inventeurs de l'alcool, les inventeurs de tas de compositions. Et puis c'est un très grand héritier du monde antique. Il ne faut pas oublier que dans l'Europe médiévale, on a perdu toute l'inventivité. Il y a eu une perte de connaissances en fait, une perte de transmission avec tout ce qui s'était inventé dans l'Antiquité. Et que le monde arabe a fait le lien entre toutes ces connaissances antiques et ce monde qui ne demandait qu'à redémarrer à la Renaissance, à la fin du Moyen-Âge. Et donc, d'une part, ils avaient cet héritage, et puis, évidemment, ça a nourri des nouvelles inventions dans le monde islamique. Et effectivement, il n'y avait pas, à ce moment-là, dans le monde islamique, il n'y avait pas ce rejet du corps,
oui,
d'une manière peut-être un peu caricaturale, telle qu'on peut l'observer aujourd'hui.
Alors, revenons en Europe. À l'époque médiévale et à l'époque de la Renaissance, ça, on le voit dans les tableaux, la beauté féminine prend pour référence celle de la Vierge Marie, hein, à cette époque-là. Et, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on s'épile les cils, je dis bien les cils, pas les sourcils, qu'on s'arrache, de sorte que tous les portraits d'hommes ou de femmes au XVe et XVIe siècle offrent le même regard de peau, avec des yeux un petit peu globuleux, quoi, parce qu'ils ne sont pas ombrés. Pourquoi cette défiance vis-à-vis du poil qui va jusqu'à s'arracher les cils à cette époque-là ?
Oui, c'est vrai que le poil, c'est très important dans un visage. Mais je pense qu'à ce moment-là, on est obsédé, c'est un débat théologique, on est obsédé par le fait d'exprimer la différence de l'homme par rapport à tous les autres animaux. Montrer sa supériorité.
S'éloigner du monde animal.
Ouais, on veut que l'homme soit un être d'exception dans la création divine.
Alors toujours à la même période, partout en Asie, au Japon, eh bien au Japon, c'est la nuque qui est la partie la plus désirable et érogène du corps féminin. Voir une femme de dos, ça procurait un très très grand trouble à cette époque-là, n'est-ce pas, au Japon ?
Oui, oui. Dans la mise en scène de la femme japonaise, le vêtement est très beau de dos, avec ce nœud absolument spectaculaire. Et puis la seule petite partie du corps qu'on acceptait de ne pas maquiller, c'était un petit morceau de la nuque.
Ouais.
Et donc, oui, c'était très érotique parce qu'on voyait la peau. Les cheveux étaient relevés.
Sinon, tout le reste du visage était blanchi, c'est
oui,
ça ?
Oui, on ne voit même pas un pied, les mains sont cachées dans les manches. Tout le décolleté, le visage est recouvert d'un fard blanc très épais. Tout le monde se ressemble pratiquement avec ce maquillage. C'est un masque sur lequel on inscrit des signes très codifiés. Et le seul côté un petit peu personnel, ce petit bout de chair qu'on aperçoit et qui n'est pas maquillé et donc que personne ne maquille, hein, c'est une convention, et bien finalement, tout à coup, c'est le vrai corps qui apparaît. C'est ce tout petit morceau sous le chignon, dans la nuque.
Incroyable. Mais alors, toujours au Japon, la tradition Ohaguro, des dents peintes en noir, bon, un noir d'encre avec de la limaille de fer, cette tradition elle est quand même assez effrayante. Les femmes semblaient édentées quand on voit les portraits de l'époque.
Effrayante pour nous, hein. Dans ce genre d'exercice, quand on apprend le vocabulaire de la beauté, il faut toujours se mettre à la place des autres et pas à sa propre place. Non, c'était pour elles, c'était d'abord l'aristocratie, l'élite qui faisait ça, puis c'était les femmes mariées.
Oui.
Et donc, ça avait du sens. Ça correspondait à des femmes de l'élite mariées. Donc, le summum.
Alors, venons à la fin de ce que vous appelez l'âge classique, Elisabeth Azoulay. Cet âge classique, il s'achève en France avec la fin de l'Ancien Régime, c'est-à-dire la Révolution. Et le grand marqueur social de l'Ancien Régime, c'est la coiffure. Les hommes comme les femmes portent des perruques, spectaculaires d'ailleurs au point d'en être parfois absurdes. Les nobles portaient de la céruse blanche à base de plomb sur le visage. Ils étaient donc aussi parés, maquillés, ornés que les femmes. Ça ne portait pas préjudice à l'idée de leur virilité ?
Non, pas du tout. C'était pas vécu comme ça. En fait, nous, on part de l'idée qu'il y a une sorte de ligne Maginot entre les hommes et les femmes.
Oui.
C'est-à-dire que les hommes ne sont pas censés
enfin,
se maquiller.
De moins en moins, hein, parce que maintenant, il y a la fluidité des genres,
l'androgynie. Absolument. Mais disons que ça, c'est une idée qui a vécu pendant deux siècles. Cette idée qu'il y avait une ligne Maginot entre les hommes et les femmes. Dans l'Ancien Régime, la ligne Maginot, c'est entre les classes sociales. Au fond, les hommes et les femmes de l'aristocratie se maquillent et ça les sépare du reste du monde, c'est-à-dire le tiers-état, qui lui a autre chose à faire. Et même vis-à-vis des bourgeois un peu à l'aise, quoi, financièrement, eh bien, il y a des lois somptuaires qui qui les empêche de porter telle ou telle forme de perruque, telle ou telle forme de parure, parce qu'il s'agit, grâce à ces éléments, de se distinguer.
On retrouve tout de suite Elisabeth Azoulay.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, avec Isabelle Morizet.
Alors, Elisabeth Azoulay, on continue de dérouler comme ça le fil. Jusqu'en 1850, bon, on contrôlait son image par le miroir. Mais voilà que la photographie va arriver avec Nicéphore Niépce. Photographie affreusement réaliste par rapport aux portraits des peintres jusqu'alors. Et puis surtout l'électricité, donc l'éclairage électrique, va s'installer dans les lieux publics à partir à peu près de 1880, voilà, et dans les maisons. Donc ça va révéler autrement les visages. Soudain, en fait, ce que vous appelez l'ère moderne, elle va commencer à partir de cette fin du 19e ou comment ?
Oui, c'est un moment clé. C'est un moment clé parce que c'est la montée de la vue. Si vous voulez, à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on passe son temps à s'observer. Grâce au miroir, grâce à la photo, grâce à la lumière électrique. Enfin bon, y a une anecdote que j'aime bien raconter, c'est que Nadar, qui est le photographe que l'on connaît, disait que quand les gens venaient se faire tirer le portrait chez lui, il revenait quelques jours après chercher le tirage photographique et très souvent, il voulait repartir avec la photo de quelqu'un d'autre en pensant que c'était leur portrait. Que ce qu'il faut se dire, c'est qu'à ce moment-là, il y avait quand même des gens qui étaient des gens sophistiqués, des bourgeois, et qui pouvaient ne pas très bien connaître leur apparence physique. Alors que nous, au fond, à partir de cette période-là, on a passé notre temps à voir notre reflet dans un miroir, à se voir photographier sur toutes les coutures. C'est la montée de la vue, de l'auto-observation et de la vigilance. On passe son temps à se scruter.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose qui est né au milieu du 19e siècle et c'est très important. Après, il y aura d'autres dates charnières, bien sûr. L'histoire ne s'arrête jamais. Mais après, il y a toutes les évolutions sociologiques du 20e siècle. La libération de la femme.
Vous allez un peu vite en besogne, parce que par exemple, dans les années 20, alors ça c'est sous l'impulsion de Coco Chanel et des bains de mer, en Occident en tout cas, apparaît le bronzage. Et alors je pense à la chanson de Laurent Voulzy, vous savez, le soleil donne la même couleur aux gens, gentiment. Le soleil unit et égalise les beautés et les races en donnant la même couleur de peau ambrée. C'est révolutionnaire ça.
Oui, c'était pas le but à ce moment-là. À ce moment-là, en fait, pendant très longtemps, la blancheur, ça a été très important dans toutes les sociétés humaines parce que ça montrait qu'on ne faisait pas partie de la paysannerie et qu'on ne travaillait pas à l'extérieur. Et puis à partir du moment où la paysannerie s'est réduite démographiquement et que les gens ont travaillé dans des usines et dans des bureaux, et ben tout à coup, le fait de pouvoir prendre l'avion, d'avoir des loisirs, d'aller au bain de mer, c'était un signe de distinction sociale. Et donc le hâle est devenu un signe de distinction sociale.
Et puis alors, il y a une période absolument abominable. Bon, la race aryenne vantée, promue par les nazis jusqu'à la fin de la dernière guerre, elle va imposer des stéréotypes racistes de beauté. On peut dire qu'avec Hitler, la beauté devient politique, là.
Oui, en fait, l'idée qu'on puisse hiérarchiser les races, c'est une idée qui infuse lentement à partir du Moyen-Âge, mais qui se cristallise en France, on a aussi nos héros de cette idée-là, malheureusement, des Gobineaux, etc. L'idée qu'on puisse hiérarchiser anthropologiquement les races. Et puis, même le fait de croire au concept de race.
Ouais.
Nous sommes tous des sapiens. Donc, et c'est très, très difficile de repérer génétiquement la moindre chose qui pourrait nous différencier. Donc, en fait, on a inventé une fiction qui est l'idée de la race.
Ouais.
Effectivement, ça a servi des projets absolument funestes. Mais on pense bien sûr aux nazis et de l'usage qu'ils en ont fait, de vouloir exterminer des gens censés supposer appartenir à une race dont on ne savait pas très bien d'ailleurs ce que ça voulait dire. Et c'était très difficile de faire les frontières entre tout ça. Bon, enfin, ça a donné des millions de morts. Mais on peut aussi penser aux Noirs, on peut penser aux Indiens, enfin, on peut penser à toutes sortes de populations. Et ce n'est pas fini, ça dure aujourd'hui encore. On peut penser à cette idée qui est une idée finalement très perverse, qui consiste à penser qu'une apparence physique peut définir une hiérarchie dans l'humanité.
Alors, parlons de la cosmétique, Elisabeth Azoulay. Dès le début du XXe siècle, sont apparues les premières colorations chimiques des cheveux, parce que vous nous avez parlé tout à l'heure d'un pharaon dont on s'est aperçu après, en analysant donc sa momie, qu'il se teignait les cheveux en roux.
Oéné.
Mais là, je parle vraiment de coloration chimique préparée en laboratoire. Ainsi, par exemple, est né le mythe de la blonde peroxydée, comme Jean Harlow à Hollywood, qui se faisait décolorer les cheveux avec une mixture à base d'eau de Javel, au secours. Le mythe de la blonde, il a vécu pendant près d'un siècle en Occident, car la plupart en fait des femmes blondes le sont par choix, n'est-ce pas? Mais que fallait-il lire derrière ce mythe de la blonde?
Une sorte de rêve occidental. La beauté blonde, c'est aussi le monde du cinéma. Qui a beaucoup, c'est la lumière photographique, la lumière cinématographique qui a mis en avant une forme de lumière, de visage, des stars. Hein, parce que là, ce n'est plus la Vierge qu'on cherche à imiter, des icônes, etc. Mais c'est le monde du spectacle, le monde du cinéma, les stars. Et donc, c'est vrai que Hollywood a adoré le blond parce que ça rendait bien sur la pellicule.
Oui, tout simplement. Surtout à l'époque du noir et blanc, quoi.
Oui,
et
puis c'est l'émergence d'une nouvelle puissance, c'est les États-Unis d'Amérique. Qui, après la guerre de 14-18, devient une puissance hégémonique et qui s'est tellement bien inventé ce qu'on a appelé l'American Way of Life avec... avec ses beautés, son mode de vie, ses produits phares.
Voilà, on arrive à Marilyn, quoi.
Et ils ont été tellement forts qu'ils ont imposé cette image dans le monde.
Voilà, alors si on résume, donc dans les années 30, le cinéma va trier les physiques. À partir de 1960, ce sera autour de la télévision. Mais bien avant l'apparition des réseaux sociaux, qui imposeront tout autour de la planète les nouveaux codes de beauté, comme par exemple l'a fait Kim Kardashian, eh bien, ce sont les années 90, là, qu'il faut mettre en lumière. Parce que les top modèles sur papier glacé, vont faire rêver en même temps les femmes sur 5 continents. De Claudia Schiffer à Naomi Campbell, elles ne sont pas nombreuses, hein. Elles sont 7, 8 à peu près. Mais elles ont un pouvoir nouveau dans l'histoire, elles détrônent les actrices. La beauté est alors officiellement représentée tout autour du monde par 7 ou 8 personnes, c'est ça?
Peut-être, oui, 7, 8, peut-être un petit peu plus, mais en tout cas pas un petit nombre de personnes qui sont des incarnations. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, c'est la mondialisation pour tous ces grands groupes. C'est même l'industrie cosmétique, tout à coup, débarque en Chine, prend conscience que son terrain de jeu s'élargit. Et donc, l'idée, c'est comment on séduit tous ces consommateurs d'ailleurs? Est-ce que c'est en leur vendant notre beauté à nous? Ou est-ce que c'est en leur disant que au fond, eux aussi, ils sont beaux et qu'on leur offre des icônes qui leur ressemblent? Ben, ils ont choisi la deuxième voie et c'est peut-être pas mal.
On retrouve tout de suite Elisabeth Azoulay.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
C'est en compagnie de l'anthropologue Elisabeth Azoulay qu'on se promène cet après-midi. Alors, chère Elisabeth, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, eh bien, on ne se pare plus, on ne s'apprête plus? Le monde entier, c'est-à-dire plus de 7,5 milliards d'humains, est en jean, basket, t-shirt et, quand il fait froid, en doudoune unisexe. La garde-robe féminine a totalement disparu, on s'habille pratique, donc en pantalon. En fait, 7,5 milliards d'êtres humains ont la même garde-robe unisexe. Au-delà de la mondialisation, c'est une analyse sociale qu'on peut en faire. Le statut n'apparaît plus dans le vêtement, riche ou pauvre, jeune ou vieux. Voilà, on est en jean et basket, point.
Oui, mais le statut apparaît au travers de la minceur, de l'hygiène alimentaire, apparaît...
Il faut envoyer d'autres signaux.
Ah ouais, les signes se sont déplacés. C'est vrai que le vêtement s'est banalisé et que le fait de faire du sport, le fait de vouloir marcher et non plus se déplacer uniquement en voiture, ça, c'est vrai qu'on est plus à l'aise pour marcher avec des sneakers qu'avec des chaussures, avec des talons hauts. C'est vrai. Donc en fait, c'est toute une façon de voir le mouvement.
Oui.
Qui a changé. On veut des corps fluides, on veut des gens qui sachent bouger dans la ville, qui marchent, qui font des grandes distances. Tout ça nous oriente vers des vêtements à la fois fonctionnels et non genrés.
Mais alors, il y a quand même une manière rouée d'envoyer des signaux, parce que même si tout le monde est habillé en jean, en basket et en doudoune, certains veulent se distinguer avec les marques, avec les logos.
Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'à première vue, on est tous pareils. Mais en regardant de plus près,
c'est pas tout
à fait vrai. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit... C'est pour ça qu'on fait des logos de plus en plus gros aussi sur les vêtements.
Ouais.
Et puis on s'aperçoit qu'il y a quand même des qualités de vêtements différents. On s'aperçoit que le signe devient plus subtil.
Ouais.
Parce qu'en même temps, c'est vrai qu'on se casse peut-être un peu moins la tête pour s'habiller, qu'on a des vêtements... Mais en même temps, les gens n'ont jamais eu d'aussi jolie peau, bien entretenue. Ils sont propres. Ils font des efforts par ailleurs, mais les efforts se sont déplacés. Et c'est vrai qu'on sait, par exemple, on l'a bien vu avec la pandémie, que l'obésité, par exemple, c'est pas réparti uniformément selon les milieux sociaux. Hein. Mmh. On sait que les problèmes cutanés non plus. Mmh. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme si on voulait faire un travail à même la peau, à même le corps, et pas au travers du vêtement. Ou alors d'une manière plus éloignée.
Mais, en même temps, pour la première fois dans l'histoire du monde, eh bien, toute l'humanité est masquée avec les mêmes masques.
Et c'est vrai.
Les beautés sont recouvertes. Beauté ou laideur, mais on est tous masqués.
Ouais, c'est pas un choix individuel, hein.
C'est un
geste de prévention. Mais c'est vrai que, on va vers un avenir commun à l'humanité de plus en plus. C'est-à-dire que on est bombardé d'images d'un bout à l'autre de la planète en même temps. Et puis là, on est confronté à un mal commun. Donc il n'y a rien de tel pour s'unir. Mais les petites différences existent malgré tout, et on trouve. Vous savez, l'humanité est très douée à la fois pour s'attaquer aux enjeux qui l'assaille en se regroupant, et en même temps pour fabriquer de la différence à chaque fois, parce que c'est important, c'est vital de se différencier des autres.
Alors c'est vital de se différencier des autres, mais pourtant, on a le sentiment que bientôt il n'y aura plus qu'un seul sexe, qui aura mêlé les deux dans une esthétique totalement androgyne, et le monde sera donc uniforme.
Il ne faut pas oublier un mot magique de notre modernité, c'est le mot individu. C'est-à-dire que dans notre modernité, c'est vrai que c'est plus le genre... L'unité de grandeur, c'est la valeur intrinsèque d'un individu. Le droit s'est calé là-dessus, nos cultures se sont calées là-dessus, et nos ambitions se sont calées là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le rêve des personnes que nous sommes à cette période de l'histoire, on veut cultiver notre individualité. Et ce qu'il y a de bien avec l'individualité, c'est qu'elle est forcément différente de l'autre.
Bon, mais alors là, je vais vous provoquer un petit peu, Elisabeth Azoulay. Par exemple, le phénomène Kim Kardashian sur les réseaux sociaux. Bon, pour la première fois de l'histoire, une femme déclare une beauté autoproclamée. Elle se montre en icône et elle est autoproclamée. C'est incroyable.
Mais oui, elle a demandé la permission à personne. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avant, le jeu était beaucoup plus codé. Hein, c'est-à-dire que tous les mannequins dont vous parliez tout à l'heure, ils avaient été choisis par des marques.
Oui.
Hein, ou les icônes antiques, etc. C'était des héros, ou c'était des déesses, ou c'était... Voilà, dans le monde chrétien, c'est la Vierge, etc. Donc, la beauté est incarnée par des icônes choisies collectivement par la culture ou par des groupes, etc. Aujourd'hui, dans le monde de l'Internet, parce que c'est quand même un grand événement pour l'humanité, on peut s'autoproclamer, on peut chercher sa petite tribu à soi en développant ses propres signes. Et bien, ce qui est drôle avec toute la saga des Kardashians, c'est qu'ils ont essayé et qu'ils ont réussi leur manière. C'est qu'ils viennent de nulle part, on ne leur connaît pas d'œuvre majeure, on ne leur connaît pas de réalisation particulière, mais au travers de ce monde des médias, ils ont réussi à fabriquer une petite sauce qui les a rendus célèbres, où ils ont façonné leur canon de beauté. Et ça a trouvé un public.
Alors, si on se projette dans le futur, d'abord je voudrais faire une référence au passé, parce que tout à l'heure vous nous avez dit qu'à la Renaissance, si on allait jusqu'à s'arracher les cils, c'était pour s'éloigner du monde animal, il ne fallait aucune pilosité. En revanche, par rapport au futur, vous dites, Elisabeth Azoulay, que le poil est de l'avenir, parce que là il s'agira de s'éloigner des robots qui bientôt vont envahir le monde, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire que dans notre futur, d'abord on va avoir des corps réparés. Parce qu'on va vivre de plus en plus longtemps. Et donc, dans nos corps, on va intégrer des pièces détachées, plus ou moins électroniques, plus ou moins sophistiquées. Et la question qu'on va se poser, c'est que qu'est-ce qu'un être humain, jusqu'à quel pourcentage de pièces détachées ?
Mais c'est ça !
Et donc, finalement, il y a une signature de l'humain qui va être une signature très choyée, qui est le poil. Puisque notre point de comparaison, ça va être l'androïde ou le robot. Et que
mais donc avec
c'est
le
plus l'animal.
C'est ça, avec le transhumanisme, le corps physique risque de disparaître.
On n'en est pas là, mais disons qu'effectivement, on le voit autrement. C'est un corps qui va être peut-être où on va embarquer de la technologie. C'est un corps qui va être réparé sans arrêt, pour durer longtemps. Tant mieux hein, pour nous. Hein. Mais en même temps, effectivement, ça nous pose une question et ça travaille l'imaginaire. Quelle est la part du naturel, si on peut employer ce mot-là? Qu'est-ce qui est la signature de l'humain à partir du moment où on aura un pacemaker, des fausses dents, des lentilles de contact, une perruque, enfin que sais-je, pour ne pas parler des puces, etc. Et donc, je crois qu'en effet, dans notre imaginaire, le fait de se revendiquer comme proche de la nature... comme proche du monde animal, et affirmer ce destin animal de l'humanité, ça va être important.
Bon, alors, avant de basculer dans le futur, restons sur le présent. Le présent, bah, c'est très simple. Houellebecq écrit, Michel Houellebecq, dans le monde moderne, eh bah, la différence d'âge est le dernier tabou. On peut être bi, on peut être trans, on peut être SM, mais il est interdit d'être vieux.
Oui, parce que on est dans un monde où on veut être indépendant, on veut être dans la puissance, dans la mobilité, et que quelque part, en fait, est sanctionné sur le plan de la beauté tout être humain qui n'incarnera pas toutes ses valeurs. Mais donc il a raison de dire ça, Houellebecq. Mais on peut quand même lui apporter la contradiction, c'est que l'humanité est vieillissante. C'est-à-dire que moi, je crois que la beauté, comme je me suis employée à le dire, c'est un rapport de force. Et qu'à partir du moment où de plus en plus de personnes, en moyenne dans l'humanité, dépasseront les 40, 50, 60 ans, eh bien, le rapport de force va changer et elles vont avoir du pouvoir d'achat, elles vont représenter quelque chose à l'échelle de l'humanité. Et du
donc,
coup,
elles vont
on va les regarder
d'autres
autrement.
Codes, c'est ça, peut-être
oui, oui. Oui, c'est certain. Regardez, le mouvement est déjà amorcé. Des marques qui cherchent des mannequins pour vendre des tas de choses, des voitures, des, ouais. toutes sortes de choses, mais en ne mettant pas des gens jeunes. Au contraire, et c'est très sympathique. Et on montre des personnalités avec des cheveux blancs, mais qui sachent faire le grand écart, par exemple. Il y a une publicité qui montre ça. Je pense que, en fait, on va aller chercher tous ces symboles de gens avec des cheveux gris, mais à condition qu'eux-mêmes ne se mettent pas sur la touche.
Je recommande plus que vivement, chaleureusement, la lecture de 100 000 ans de beauté qui est parue chez Gallimard. Et je vous remercie infiniment pour cette balade absolument incroyable donc dans l'histoire de la beauté humaine. À très bientôt, Elisabeth Azoulay.
Merci Isabelle, c'est aussi une balade dans l'histoire de l'art.
Oui, ouais, c'est vrai. Ouais.